Nous te remercions maintenant, ce soir, pendant cette heure, pour ces réunions merveilleuses, pour ta parole. Ta parole ne revient jamais à vide. C'est ce que nous l'avons lu. Seigneur, nous ne voulons pas seulement avoir chanté que nous t'aimons, mais nous t'aimons réellement. Parce que nous savons que tu nous as aimés le premier. Et le plus grand amour fut que tu as laissé ta vie pour nous. Sur la croix à Golgotha, où tu as dit, c'est accompli. Seigneur, à toi soit la reconnaissance. Nous te prions aussi, maintenant que tu puisses continuer à être avec nous, que tu puisses nous parler par ta sainte et précieuse parole. Seigneur, fais-le par ta grâce. Bénis celui qui parle, bénis ceux qui écoutent. Bénis-nous tous, ô Dieu, et aussi tous ceux qui ne pouvaient pas venir et qui devaient repartir. Bénis tous, ô Dieu, tout ton peuple dans son entièreté, partout, dans tous les endroits. C'est notre prière commune dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Si les choses vont pour vous comme moi, alors dans notre cœur, nous devenons toujours plus reconnaissants, plus joyeux parce que nous remarquons que Dieu, d'une manière puissante, en nous agit et que toute sa parole a encore plus à nous dire qu'elle a eu auparavant à nous dire. Elle nous signifie toujours plus. Et nous ressentons sûrement que nous devenons tous plus participants des choses que Dieu nous a promises. Et pas en une seule fois, mais elles nous sont accordées peu à peu par la grâce de Dieu. Je voudrais vous saluer dans le prochain nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est entièrement clair pour moi que vous ne venez pas pour écouter un homme. Ça, moi, je ne le ferai pas non plus. Je ne viendrai pas écouter un homme. Nous venons tous ensemble comme autrefois dans la maison de Corneille. Il a été dit, nous sommes rassemblés devant la face de Dieu pour écouter ce qui t'a été ordonné de nous dire de la part de Dieu. Nous avons un message divin, glorieux, qui nous a été vraiment confié et nous pouvons, avec Paul, dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur sans message n'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait un message lié à l'annonce de la parole de Dieu dans ce temps. Donc, en général, nous l'appelons message de la fin des temps, tout simplement parce que il est déterminé pour la fin des temps. Et c'est ainsi qu'à la fin des temps, tout est résumé, tout ce que le Seigneur a promis, tout ce que le Seigneur a prédit et tout ce qui s'accomplit maintenant est résumé. Avant que nous puissions passer à l'observation de la parole, j'aimerais faire certaines annonces terrestres. Donc, sûrement que vous avez, sûrement que notre bien-aimé frère Paul Schmidt vous a manqué et il ne pouvait malheureusement pas être ici. Il nous a appelés et nous salue tous très fraternellement dans une maison de repos un peu pour se reposer. Et c'est ainsi que je voudrais avoir remis ces salutations. Et je voudrais déjà ce soir avoir annoncé que le premier week-end, en avril, les réunions ici n'auront pas lieu comme nous les avons l'habitude. Le premier week-end, j'ai un voyage plus long aux États-Unis et au Caraïbes, particulièrement en Jamaïque. Ça commence là-bas, à Kingston, et ensuite ça continue d'une manière que c'est seulement le 21 que je reviens. Mais vous savez, nous avons maintenant ces réunions merveilleuses et bientôt ce sera de nouveau la Pentecôte et je vous garantis que à la Pentecôte, la salle ici sera trop petite. Dieu voulant, Il y aura des délégations qui vont venir de l'Inde, du Pakistan, du Zaïre, du Malawi, de différents pays. Ils viendront pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait là-bas, dans leur pays. Mais cela ne reste pas hors de question que parfois je dois aussi voyager, même si je ne le veux pas. Notre frère Barillier a un peu plus facile. Il voyage un peu plus rarement. Et alors, c'est plus facile pour lui. Alors, Dieu voulant, le 26 avril, nous avons la réunion à Salzbourg, en Autriche, et le 27 à Zurich. Et de la même manière, le premier week-end de mai est annulé parce que la première partie de mai, c'est-à-dire exactement jusqu'au 11 mai, je serai en Italie, avec le frère Étienne, ensemble. Nous voulons là-bas entreprendre une campagne d'évangélisation pour Christ, pour la vérité au nom du Seigneur. Un triomphe pour la vérité, pour Christ. Je ne voulais pas, mais où est-ce que nous devrions aller, si ce n'est en Italie? Donc, Dieu voulant, nous avons la conférence de la Pentecôte le 17 et le 18 mai. Et je voudrais aussi déjà dès ce soir inviter très fraternellement, après la conférence, nous aurons plusieurs jours de réunion de frères, justement dans cette conférence, nous serons avec ceux qui viennent de loin, aussi d'ici, ça n'a pas d'importance, qui vous serez, pour aller plus profondément dans les Saintes Écritures, et peut-être répondre à des questions qui sont encore ouvertes. Nous attendons même des visites de l'Australie. J'espère que mon vieil ami pourrait, mes vieux amis pourront venir de l'Australie. Et ce sera sûrement pour eux et pour nous tous une grande bénédiction. Donc, nous voulons, comme cela a été annoncé, parler de ce qui s'est passé entre le vendredi de Pâques et le dimanche de Pâques, donc la résurrection, entre la mort et la résurrection. En général, on entend jamais parler de ça. Toute prédication, tous parlent de ce qui s'est passé à Golgotha, tous parlent de ce qui s'est passé le jour de la résurrection, quand le Seigneur ressuscita. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu une prédication sur ce qui s'est passé entre-temps. Entre sa mort et sa résurrection. Et c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Il y a toute une communauté qui croit au sommeil de l'âme. Ils croient que quand l'homme meurt, l'âme dort tel que le corps se repose dans la tombe. Cela n'est pas en accord avec le témoignage des Écritures. Alors que Dieu avait apparu à Moïse dans le buisson ardent, alors que Abraham, Isaac et Jacob étaient décédés depuis longtemps, il a dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Jésus se réfère à cette parole dans le Nouveau Testament et il dit, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Et Dieu n'est pas un Dieu qui dort, non. Il est un Dieu vivant. Et il est un Dieu. Il est le Dieu de ceux qui ont passé de la mort à la vie. Et je voudrais lire des paroles. J'appartiens à ceux qui écoutent exactement ce qui est lu comme parole d'introduction et qui écoutent ce qui est dit. Et il s'agit du sujet ici. J'habiterai parmi vous. Lévitique chapitre 26, verset 10. Lévitique chapitre 26, verset 10, peut-être dès le verset 11. Lévitique 26, verset 11. « Je ferai ma demeure au milieu de vous et mon cœur ne vous aura point en horreur. Mais je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça, c'était la promesse que Dieu avait donnée. Et maintenant, écoutez comment est-ce que Paul, dans le Nouveau Testament, la reprend dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, la deuxième partie du verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, commande le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Quelle parole merveilleuse de Dieu. À chaque fois que des hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, d'une manière si merveilleuse, dans tout le programme, insère les paroles de l'Ancien Testament. Mon cœur exalte et loue le même Esprit de Dieu qui était sur les prophètes, était aussi sur les apôtres. Et c'est pour cette raison que l'Église du Dieu vivant est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, a été bâtie où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Maintenant, nous venons à Luc, le chapitre 23. Luc, chapitre 23, je voudrais lire tout un nombre de versets bibliques pour que vous puissiez tous savoir que nous ne disons pas les choses par cœur, mais que nous les lisons des Saintes Écritures et croyons tel que c'est écrit. Luc, chapitre 23, dès le verset 50 jusqu'au verset 53. Et voici qu'un homme nommé Joseph, membre du haut conseil, homme bon et juste, il n'était pas d'accord avec leurs décisions et leurs lignes de conduite. De la ville juive d'Arimathie, qui attendait le royaume de Dieu. Cet homme alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa de linge fin et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc dans lequel personne n'avait encore été enterré. Or, jusqu'ici, jusqu'au verset 53, cette précieuse parole, cela concerne le corps de Jésus. Et si nous lisons cette expression « corps du Seigneur » et si nous devons employer ce mot en relation avec notre Seigneur, cela est pour nous un peu une douleur parce qu'il était le roi et parce qu'il est le roi des rois et à lui appartient tout l'honneur et la gloire, il est digne de tout honneur et de toute gloire. Mais ici, il s'est humilié, abaissé, dépouillé. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a apparu comme un vrai homme et comme l'Écriture le formule, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Il a mangé, il a bu, il était fatigué et il a dormi. À tel point même que les vagues et la tempête n'ont pas pu le réveiller et que les disciples sont venus à lui et lui ont dit, mais cela ne te fait rien que nous soyons en train de périr. Trouvé comme un homme, mais engendré par le Saint-Esprit, apparu dans un corps de chair, pour qu'il puisse, pour toute l'humanité qui est dans un corps de chair, et qui est tombé dans ce corps de chair, et qui a été séparé dans ce corps de chair, pour qu'il puisse, dans ce même corps de chair, les sauver, et ainsi, nous faire sortir de la corruptibilité de ce corps, dans l'incorruptibilité du corps immortel, nous ramener dans l'incorruptibilité du corps immortel. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Son corps fut enterré, fut mis dans le sépulcre. Beaucoup qui ont été avec nous en Israël ont vu cet endroit de la tombe. À chaque fois, alors que j'étais seul là-bas, je suis entré et je me suis mis à genoux et j'ai remercié le Seigneur de ce que la tombe est vide. Toutes les autres tombes, de Confucius, en passant par Bouddha et jusqu'à Mahomet, et qui seraient tous ces personnages, tout est resté comme ça a toujours été, mais pas avec notre Seigneur. Notre Seigneur n'était pas un fondateur de religion, il était un philosophe, il n'était pas un philosophe, il était le Seigneur, il était le Rédempteur, il était notre Sauveur, il vint pour détruire la puissance de la mort et pour mettre en lumière la vie et l'incorruptibilité pour tous ceux qui viendraient dans sa lumière pour être éclairés par lui, par le message du salut. Et son corps a été enseveli, a été mis dans la tombe, mais lui aussi existait dans l'esprit. Lisons plusieurs écritures avant de venir au noyau de la chose, au cœur de la chose. Zacharie, chapitre 9, ici nous lisons le verset 11 et 12. Zacharie, chapitre 9, verset 11 et 12. Pour toi aussi, à cause de l'alliance de sang que j'ai conclue avec toi, je libérerai tes captifs de la fosse sans eau. Retournez à une demeure fixe, vous, les prisonniers qui pouvaient encore espérer. Il y a eu des hommes qui, dans le temps de l'Ancien Testament, moururent, mais ils moururent avec. Mais ils sont morts avec l'espoir justifié et vivant de la résurrection. Et ils n'ont pas, pas été déçus. Le prince de la vie mourut selon le corps, mais selon l'esprit, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre pour là-bas les faire sortir, ce qui n'avait pas sa place d'être là-bas. Ceux qui n'avaient pas leur place d'être là-bas. Allons dans Osée, chapitre 13, verset 14. Osée 13, verset 14. Je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts, les racheter de la mort. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit ici? Pas d'une religion, pas d'une idée, pas d'une fantaisie quelconque pieuse où on va en penser dans des hautes sphères. Combien se réveilleront étant terrifiés s'ils n'acceptent pas la rédemption en Christ? Notre Sauveur avait avait des variétés de domaines de devoirs: nous racheter, payer le prix, nous donner la vie éternelle. Mais il a aussi eu le devoir de régler le compte de la mort et de l'enfer. Et ça, il a fait. Ça aussi, il a fait. Je lis encore une fois. je devais les délivrer du pouvoir du royaume. Donc voilà, dans l'Ancien Testament, il est écrit, je devais les délivrer. D'un nouveau, nous pouvons dire que cette écriture s'est accomplie devant nos yeux, sous nos yeux. Matthieu 27 rend témoignage de ça. Il est écrit ici, et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent, sortis de leur tombeau après sa résurrection. Ils entrèrent. Donc, ils entrèrent dans la ville. Il les a délivrés du pouvoir du royaume des morts. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts. Les racheter de la mort. Où sont tes fléaux aux morts? Où est ta pestilence? Au enfer. Où est tout cela? Où est la peur? Nous connaissons celui qui est allé dans les enfers de la terre, en enfer. Vous direz que cela est vraiment vrai? Oui, bien sûr que c'est vrai. Il devait absolument régler le compte de toute la puissance de l'ennemi. Et c'est peut-être raison qu'il devait aller en bas, en enfer. Vous pensez-vous que le diable a pu là-bas se cacher? Non. Alors que notre Seigneur fut ressuscité, il pouvait dire, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Ça, il n'a pas seulement dit, cela est vrai. Alléluia. Mon Seigneur n'avait pas besoin de dire quelque chose qui ne serait pas vrai. Nous le croyons de tout notre cœur. Donc, je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts. Seigneur, tu l'as fait. Tu n'as déçu personne qui a mis son espérance en toi, qui est resté patient, qui a persévéré, qui s'est attendu à ce que la rédemption vienne. Où sont tes fléaux aux morts? Où est ta pestilence au monde? Souterrain, au enfer. Oui, l'enfer est une pestilence, on peut le dire. Et un très grand fléau est la mort. Mais Dieu nous a déterminés à voir sa gloire. Et nous avons à transmettre cette grande offre de grâce de notre Dieu. Et ça, nous le faisons de tout notre cœur et de toute notre âme. Psaume 16. Verset 10, nous voulons maintenant lire le psaume 16, verset 10. Peut-être que nous devrions lire à cause du contexte tous les trois versets, du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme est dans l'allégresse. Mon corps aussi se reposera en sécurité, car tu ne livres pas mon âme au royaume des morts, tu ne permets pas que ton pieux voie la destruction. Tu me montres le chemin de la vie. En ta présence, il y a de la joie en abondance et des bénédictions dans ta main droite pour l'éternité. Quelle parole merveilleuse! Mon âme est dans l'allégresse. Le verset 9, à Gethsémané, le Seigneur a livré une grande bataille. Mais au moment où Golgotha est devenu une réalité, la bataille a été décidée. Il n'est pas allé en enfer en tremblant et en ayant peur. Mais comme vainqueur de Golgotha, il est allé dans les enfers de la terre. Ce n'est pas lui qui tremblait, mais c'est Satan. Et tout l'enfer tremblait, car le Seigneur de la vie n'était pas venu pour rester là-bas. Mais il est allé dans l'enfer de la terre pour faire ressortir ceux qui n'avaient pas sa place d'être là-bas. Dans l'Ancien Testament, les croyants avaient répandu le sang des animaux et leurs péchés ont été couverts provisoirement. mais il devait attendre jusqu'au grand jour de la réconciliation. Et le grand jour de la réconciliation a eu lieu à Golgotha. Ça, c'était l'heure à laquelle tous ont attendu, qui avaient prophétisé concernant la grâce et qui avaient cru aussi ce qui avait été prophétisé, c'est-à-dire en faisant référence au Messie. Car tu ne livres pas mon âme au royaume des morts. Il redit le verset 10, et tu ne permets pas que ton pieu ou bien alors ton saint voit la destruction. Allons lire ce que Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 2 a répété. Actes des Apôtres chapitre 2. Ici nous lisons le verset 24. Dieu l'a ressuscité, ayant dissipé les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Bien sûr que selon la promesse, un devait mourir pour tous. Vu terrestrement, nous mourons tous en Adam, ou bien alors nous sommes livrés à la mort par lui. Tout homme qui naît et qui est né dans ce monde, qui naît dans ce monde, est né pour mourir. Chacun peut déjà, après sa mort, préparer sa tombe. Car il n'y a pas plus certain que ça dans la vie que la mort. Et c'est pour cette raison que les Saintes Écritures disent: enseigne-nous à penser que nous devons mourir pour que nous devenions sages. Il y a des gens sages, mais cette sagesse n'est pas demandée devant Dieu. Nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse divine, pour que nous puissions recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Dieu l'a ressuscité. Acte 2, verset 24. Ayant dissipé les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dans Genèse 3, verset 15, il nous a dit clairement que le serpent ancien piquera au talon la postérité de la femme. Et c'est par cela, justement, par cette piqûre que cela s'est passé. Cela était dans le plan de Dieu. Parce qu'il a dû recevoir l'aiguillon de la mort en lui, par cette piqûre, pour ensuite engloutir la mort dans la victoire. On doit pouvoir recevoir quelque chose pour ensuite l'engloutir. Et c'est comme ça que notre Seigneur a dû souffrir la mort, et pas pour rester dans la mort, mais pour engloutir la mort. Et ainsi, pour toute l'humanité, ici sur cette terre, manifester la vie éternelle. La plupart des hommes ont des rêves pieux et ils croient à une vie après la mort et pensent que les choses vont bien se passer pour eux. Seulement, celui qui ici sur cette terre a reçu de son vivant la vie éternelle, tant que c'est encore le temps de la grâce, alors c'est cette personne-là seulement qui aura la vie éternelle. La préparation pour l'éternité commence pas après la mort. Non, notre préparation pour la vie éternelle cesse avec la mort. Et cela, on doit le dire à tous les hommes. Et si quelqu'un pense que ce sont trois croix qui vont changer quelque chose dans son état lors de l'enterrement, ou bien la prédication pieuse de quelqu'un qui le changera, il s'est trompé. La décision de notre vie doit venir par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, notre Seigneur a ôté l'aiguillon. Donc, il a reçu en lui l'aiguillon de la mort. Et il est mort. Il n'était pas soi-disant mort. Ce n'était pas une apparence de mort. Il a perdu les dernières gouttes de son sang. Il a été enseveli, c'est-à-dire mis dans la tombe. Mais en esprit, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Apparemment, le diable, qui parfois lui avait donné des coups ici sur terre et lui disait, par exemple, par ces personnes-là, ou bien par là, ici et là, parle, change ses pierres en pain, ou bien alors saute du sommet du temple ici parce qu'il ordonnera à ses anges, ils te porteront sur ses bras pour que ton pied ne sorte pas à une pierre. Le diable a essayé ici de lui faire du mal. Mais quand la chose s'est terminée ici, a été réglée ici, le diable a fui. Et il est allé dans les enfers de la terre. Et le Seigneur l'a suivi derrière. Le Seigneur est allé derrière lui. Et il lui a dit, tu es vaincu. Sur la croix, à Golgotha, cela a été accompli. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Car sa victoire est notre victoire. Nous n'avons plus besoin de craindre l'enfer. Pour moi, le Seigneur a préparé tout le ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Seigneur a dit, je vais pour vous préparer une place. Et alors, je reviendrai pour vous prendre auprès de moi. Le diable s'est enfui. Mais cela n'était pas valable. Le Seigneur est allé derrière lui. Je vais lire plusieurs écritures. De Romains, chapitre 7, verset 24. Une parole très connue pour tous ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible. Romains 7, verset 24. Ici, Paul écrit ainsi, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est accompli par Jésus-Christ notre Seigneur. » Justement jusqu'ici. Paul savait que il ne s'agit pas seulement de la rédemption de notre âme. Il ne s'agit pas seulement de la délivrance de notre corps, de notre âme, pardon, mais de la délivrance de notre corps. Que ce corps puisse être ramené par un changement à un corps de résurrection. Et le Seigneur lui-même a pris soin pour cela, pour que notre corps soit changé en un corps de résurrection. Et nous aussi, nous pouvons dire dans ce désespoir, parce que dans ce corps de chair, nous ne nous sentons pas à la maison. Il y a quelque chose d'étrange qui enveloppe notre nouvelle vie. C'est peut-être raison que, soyons sincères, tous les hommes qui vraiment sont nés de nouveau ne se sentent pas bien dans ce corps ou alors dans ce monde. Ils ne se sentent pas à la maison. Ils ne sont pas ici chez nous. Il y a quelque chose de divin qui a été placé dans un vase de terre et nous aspirons à nous dépouiller de cette tente terrestre pour que le divin entre dans le divin. Pour que toutes les difficultés et les soupirs cessent en raison de la parole du Seigneur. Nous pouvons dire et nous pouvons le croire que bientôt cela aura lieu. Le temps de la grâce va vers sa fin et le temps travaille en fait pour nous, entièrement pour nous, car Dieu n'a pas seulement l'éternité mais il a aussi le contrôle sur le temps, pas seulement sur l'éternité. Je lis dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 44, et ensuite, après, à partir du verset 53. Ici, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, au verset 44. Semer est un corps naturel, un corps naturel. Ressuscité est un corps spirituel. Jusqu'ici, de même, pardon, qu'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Nous devons aujourd'hui reconnaître cela clairement. Il ne s'agissait pas seulement du salut de notre âme, de nos âmes, pas seulement du pardon de nos fautes, pas seulement de la réconciliation avec Dieu, pas seulement de la vie éternelle. Il s'agissait de l'accomplissement de tout le dessein du salut de notre Dieu. Et il consiste à ce que les siens, en tant que fils et filles de Dieu, dans toute éternité, soient auprès de lui et seront auprès de lui. Et sans corps, nous pourrons très difficilement apparaître devant lui et aller là-bas, sans ce corps spirituel. Et Dieu a pris soin aussi pour ça, en accomplissant la délivrance de ce corps mortel. Comme nous l'avons lu, et Jésus-Christ notre Seigneur a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et avec ce corps de résurrection, c'est comme ça qu'il nous est témoigné, nous décrit, qu'il pouvait entrer dans un bâtiment, dans une pièce, quoique les fenêtres et les portes étaient fermées. Et il a apparu parmi les siens, parmi les disciples, et il leur a dit, que la paix soit avec vous. Alléluia! La mort était vaincue. Satan était vaincu. Et maintenant, il n'y en a qu'un seul qui a tout pouvoir sur toutes choses. Et ça, c'est le Seigneur qui a vaincu toutes choses et qui a vaincu tout, surmonté tout, triomphé de tout. Lisons à partir du verset 53 maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Alléluia! Louange soit à notre Dieu. Nous avons une pleine rédemption. Et dans Romains, chapitre 8, au verset 19, Paul écrit que toute la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Au verset 23 de Romains 8, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Et avec cela, donc, l'enlèvement aussi. Et alors, le mystère de Dieu avec l'Église sera accompli. Quand on prend de l'âge, alors les soucis, on se demande comment ça doit continuer. Celui qui est croyant, il se réjouit avec de chaque jour, pour chaque jour, car c'est un jour plus proche de la gloire de Dieu. Un jour plus proche où on pourra dire au revoir à cette terre misérable. Comme Paul a écrit autrefois, j'aurais bien voulu être déjà auprès du Seigneur. Mais à cause de vous, je reste. Je préfère rester ici. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, j'aimerais toute chose. Mais je ne veux, il y a une chose que je ne veux plus, c'est prêcher. C'est prêcher. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis reconnaissant à Dieu de ce que ce plein évangile, je peux le prêcher. Et je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, mon Seigneur, est digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Soyez sincères, Et de tout le temps de l'Ancien Testament, seulement deux ont échappé à la mort complètement. Et le troisième y a échappé à mi-chemin avec l'honneur et la dignité. C'était Moïse qui est alors mort, au sujet duquel le corps fut disputé, que ensuite les anges ont pris. Mais sinon, tous les autres, tout le reste, ont été retenus par la mort. Et celui qui a lu dans Luc 16, il connaît l'histoire de l'homme pauvre et du riche Lazare. Mais quelqu'un me dirait, mais frère Franck, mais là, tu te trompes. Tu t'es trompé. Car, c'est pas ce que tu as voulu dire. Car c'était plutôt l'homme riche et le pauvre Lazare. Non, pour moi, c'était le contraire. Celui qui était riche terrestrement était pauvre, spirituellement. Et celui qui était pauvre terrestrement était riche spirituellement. Et je vous demande, est-ce que l'un aurait voulu échanger sa condition à celle de l'autre? Oui, le riche. Il aurait bien voulu, mais pas le pauvre. Bénis ceux qui sont pauvres d'esprit, car à eux appartient le royaume de Dieu. Et parfois, pour les riches, c'est un grand problème pour recevoir le salut. Et là, personne n'a besoin de m'en vouloir. Et moi, je n'ai pas besoin de votre argent de toute manière. Ça, vous le savez. Et le savent tous ceux qui me connaissent. Et Dieu, de toute façon, le sait depuis longtemps déjà. Mais il y a un homme. Mais un homme pour qui la richesse fut un obstacle, c'était ce jeune. Ce jeune, à lui, le Seigneur l'a dit, « Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. » Et selon frère Branham, c'était ce jeune riche-là dont il est question dans Luc 16, verset 19. Celui qui est appelé l'homme riche dans Luc 16, c'était ce jeune homme riche. Imaginez-vous, une rencontre, après avoir eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur l'avait regardé et l'aimait. Il l'a aimé. C'est écrit. Et il a vu qu'il était attaché à ses richesses comme le diable aux âmes. Et plus tard, il lui a dit, vends tout ce que tu as. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti triste. Mais ensuite, il fut celui qui plus tard s'est réveillé trop tard. Il y a des hommes qui ici se réveillent sur terre déjà de leur vivant sous l'écoute de la parole de Dieu. D'autres se réveillent quand c'est trop tard. Et regardent de l'autre côté. Et vous savez, dans le temps de l'Ancien Testament, les deux endroits étaient en bas. Le paradis comme lieu de retour à la maison des béatifiés, des bienheureux. Et seulement un fossé séparait ces endroits de l'autre, cet endroit de l'autre. Mais personne ne pouvait traverser cette fosse. Ce n'était pas possible. Mais l'homme riche disait à Abraham, « Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. » Cela n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il y a un ciel et il y a un enfer. Il y a des sauvés et il y a des perdus. Et ça, il faut que cela soit dit clairement. Celui qui, de son vivant, n'a pas encore expérimenté et accepté personnellement le salut en Christ est encore perdu. C'est ainsi. Mais peut déjà aujourd'hui être sauvé de son vivant. Alléluia! S'il accepte, loué et exalté soit notre Dieu. Nous ne sommes pas ici pour annoncer le jugement. Je me réfère là aussi aux paroles de mon Seigneur, tout simplement, qui a dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour que le monde par lui soit sauvé. Nous ne sommes pas ici pour, par notre annonce de la parole, annoncer le jugement. Nous sommes ici pour montrer à l'humanité le chemin de Dieu qui mène au salut. Le même. Et heureux celui qui a compris que c'est le Seigneur lui-même qui parle avec nous, qui nous montre le chemin, qui mène au salut. Pensez-vous que cela est adressé seulement à vous? Non, cette même parole est adressée aussi à moi dans cette heure. Lisons encore d'Hébreu, le chapitre 2. Pour moi, ces choses sont très sérieuses. Hébreu, chapitre 2. Ici, nous lisons le verset 14 et 15. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a aussi reçu une part égale à la leur, afin de détruire par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est ainsi que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, alors il n'aura pas été tendre avec lui. C'était la tâche de mettre fin à l'origine de tous les méfaits, de mettre fin à ses jours. Lui, l'instigateur et l'auteur de tout le mal, de tous les méfaits, de le vaincre. Et il ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet de faire. Je lis encore une fois. Et ensuite, tout de suite, en même temps, le verset 15. Hébreux 2, verset 14, verset la deuxième partie. Afin de détruire par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, écoutez ce qui suit. Afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. La mort a appris aux hommes à avoir peur. Elle les a asservis. Elle les a assujettis. Mais le prince de la vie est venu dans un corps de chair pour pouvoir souffrir et mourir. Il n'est pas seulement venu pour mourir. Il vint afin d'ôter la puissance de la mort et de vaincre la mort et celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, pour vaincre le diable. Et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il a fait cela? Amen! Cela il a fait. C'est accompli, il mourut sur la croix à Golgotha. Il a poursuivi dans les endroits les plus bas de la terre, il est tombé sur lui. Et même si c'était dans le dernier coin, il n'y avait plus de cachette pour lui. Satan a fait ce qu'il voulait. Il a, n'est-ce pas, ôté la vie, arraché à la vie, jeté en enfer, etc. Il disait, ici c'est moi qui décrète, ici c'est moi qui détermine. Non, plus du tout. Plus depuis Golgotha. Plus depuis le jour. Oh, sur la croix à Golgotha, le prix fut payé. Le diable ne possède plus les clés de l'enfer et de la mort. Maintenant, elles sont entre les mains de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a vaincu la mort et le diable. Mes bien-aimés, si cela est vrai, et je m'excuse pour le mot « si cela », car ça n'a sûrement pas sa place ici, mais parce que c'est vrai, nous pouvons nous réjouir, n'est-ce pas, dans notre Dieu. Car, aux croyants, le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Dans Jean 11, et il a demandé ensuite, crois-tu cela? Et Marthe lui a dit, oui, je le crois. Et il a dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra pas éternellement. Le croyant fait que changer de domicile. Il passe de ce corps à l'autre corps. La mort veut dire séparation. Séparation avec ce monde. La mort physique et la mort spirituelle. Séparation avec Dieu. Les réconciliés sont liés avec Dieu. Le mur de séparation est ôté. L'inimitié est ôté. Éphésiens 2, verset 14, 15. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez cela aujourd'hui de tout votre cœur. Et cela vous sera accordé à tous. Mais le Seigneur n'aurait pas pu faire tout ça dans son corps spirituel qu'il avait dans l'Ancien Testament. En tant que Yahvé dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas mourir. dans un corps spirituel, car il était immortel. Donc, il a fallu qu'il se crée un corps de chair saint. Et cela a eu lieu quand la parole de la promesse divine fut adressée à Marie. Et alors, Jésus naquit, qui est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et ça, vous pouvez me le croire. Il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant, pas deux. On peut vouloir faire un peu de mélange, mais quand on en arrive là, les limites sont fixées à tous ceux qui essayent de mélanger les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Dieu vivant. Et le Dieu vivant s'est fait connaître en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, je peux vous le dire. Tous les prophètes qui sont allés au paradis ont dû attendre que ce jour arrive là-bas, jusqu'à que ce jour arrive. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, de leur vivant, avait mis dans leur cœur une espérance vivante. Souvenons-nous clairement de ce verset et gardons-le dans nos cœurs. Hébreux 2, verset 14. Afin de détruire par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pas seulement nous racheter, nous sauver, nous délivrer, mais détruire Satan qui avait la puissance de la mort. Cela a été accompli à Golgotha, sur la croix, et c'est là que le Seigneur est allé dans les frères de la terre ensuite. Et c'est là-bas qu'en bas, il a revendiqué et fait valoir cette victoire, la victoire absolue de Dieu. Et il faut que le diable respecte cela et que tout l'enfer respecte cela. Le diable n'aura pas de respect devant toi et devant moi, mais devant le Seigneur et, de sa parole, et devant sa parole. Il devra s'incliner. Et c'est pour cette raison que nous ne venons pas avec nos propres, en nos propres noms et avec notre propre autorité. Nous venons au nom de Jésus-Christ et avec l'autorité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que par sa mort, il l'a détruit, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dites amen à ça. Alléluia. Loué et exalté soit notre Dieu. Je lis encore un peu plus. Dans 1 Pierre, une parole très merveilleuse ici. 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Car le Christ aussi est mort une fois pour les péchés, comme le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Lui qui a été mis à mort dans la chair, mais qui est ressuscité à la vie par l'Esprit. C'est aussi en esprit qu'il alla prêcher aux esprits en prison. Donc, entre le vendredi de Pâques et le dimanche de Pâques, entre sa mort et sa résurrection, quelque chose de grand, de très grand s'est passé. Le Seigneur ne s'est pas reposé dans la tombe. Là, c'est son corps qui s'est reposé. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre pour là-bas, en bas, proclamer la victoire de Dieu. Et là aussi mettre de l'ordre et pour s'assujettir toutes choses. Car il est le vainqueur de Golgotha. En esprit, c'est aussi un esprit qu'il alla prêcher aux esprits en prison. Il alla prêcher aux esprits en prison. Donc, d'abord à ceux qui de leur vivant n'ont pas cru et sont morts perdus. À eux, il a confirmé tout ce que ses serviteurs et prophètes avaient annoncé depuis les temps anciens. Puis, après avoir conquis et vaincu l'enfer et le diable, il est passé de l'autre côté, du côté de ceux qui sont morts dans la foi. Oh, comme Abraham, Isaac et Jacob. Comment est-ce que tous les prophètes se sont, comment est-ce qu'ils ont ressenti tous les saints, tous les justes, tous les sauvés, tous ceux qui ont attendu la consolation et la rédemption d'Israël. Comment est-ce qu'ils ont dû ressentir de voir le Seigneur, le Rédempteur, venir à eux. Oh, Abraham a dû penser ou bien dire, mais c'est toi que j'ai vu autrefois, à l'époque, alors que j'étais assis sous le chêne et que tu m'as visité. Dans Genèse 18, tous les hommes de Dieu, tous les prophètes, tous ceux qui ont persévéré et ont attendu ce jour, ont su, quand il est venu en bas, que c'est ce jour qu'ils ont attendu depuis longtemps, de leur vivant. Et je peux bien imaginer Job, l'un, et celui-là qui était parmi eux, qui a attendu ce jour plus que tous, car le diable avait vraiment frappé terriblement de sa tête aux pieds et détruit toute sa maison. Un message de malheur l'un après l'autre. Et ensuite, il était assis sur la cendre. Et d'un côté, il fut consolé, mais d'un autre côté, il fut méprisé. Mais les Saintes Écritures disent, dans Hébreux 19, verset 27, que, dans le premier chapitre d'abord, que Job n'a pas, malgré tout, péché de ses lèvres. Lui aussi l'a argumenté, mais il n'a pas péché de ses lèvres. Il avait dit, je sais que mon Rédempteur vit, Job 19, verset 25, celui que je verrai pour mon salut, et mes yeux verront, et non pas comme un étranger, celui pour lequel mon cœur se consume d'attente au-dedans de moi. Cette expression n'est même plus exprimée et utilisée aujourd'hui. Hein? C'était plus qu'un désir, hein, dans Job 19, verset 27, plus qu'un désir qui était dans son cœur. Mais maintenant, ce désir était accompli. Quelle allégresse a dû jaillir de leur cœur. Quelle joie! Le Seigneur a dû sûrement dire, « Mon peuple, c'est accompli! La mort a perdu sa puissance. Le diable est vaincu! Viens, venez, nous sortons. Nous montons. Alléluia. Et là, je vais aussi vous lire cela. Et si vous pouvez le croire, qu'il nous a déjà été promis de vaincre la mort en tant que personnes qui seront encore en vie lors de la seconde venue de Christ, lors du retour de Jésus. Vous savez que cela est écrit? Il est écrit. Nous les vivants qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Ils vont être ressuscités et nous serons changés. En un clin d'œil, sans voir la mort. Alléluia! Loué et honneur et honoré soit notre Dieu. Éphésiens, le chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, montez en haut. Il a libéré les captifs et il a fait des dons aux hommes. Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il sinon qu'il est d'abord descendu aussi dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. Celui qui est descendu est le même qui est monté, il redit le verset 10, au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. Alléluia! Tout a valu la peine, sa mort a valu la peine. De descendre dans les endroits inférieurs de la terre en enfer a valu la peine. La résurrection a valu la peine. Valait la peine. Tout. Le psalmiste l'a dit en avance. Ouvrez-vous, vous, portes anciennes, et laissez entrer le roi de gloire. Et la question suit. Qui est ce roi de gloire. Et la réponse vient. Le Seigneur puissant en bataille. Il est le roi de gloire. Ouvrez-vous, vous portes anciennes. Et je vais vous dire, les portes sont ouvertes. Et alors, la troupe des vainqueurs de l'Ancien Testament sont entrés avec notre Seigneur sur les rues pavées d'or. Alléluia! Gloire soit à notre Dieu. Oh, quel jour ce sera quand la perfection aura lieu. Quand tous du temps de l'Ancien et de la Nouvelle Alliance seront rassemblés auprès du Seigneur. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et frère Rousse, n'est-ce pas, a lu cette parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Jean 14. Oh, nous remercions Dieu pour sa sainte parole. Nous remercions Dieu pour Golgotha. Et nous remercions Dieu aussi de ce qu'il n'a pas eu peur d'aller en enfer pour là-bas mettre fin à tout cela, à toute la chose. Je ne peux rien faire d'autre que vous lire encore de l'Apocalypse, le premier chapitre, le verset Apocalypse, chapitre 1. Ici, il est écrit dès le verset 17. Apocalypse 1, verset 17. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort et il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains pas, c'est moi le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici que je vis éternellement et j'ai les clés de la mort et du royaume des morts et de l'enfer. Alléluia. Ça, ce sont les véritables paroles de notre Seigneur. Donc, les clés de la mort et de l'enfer. Et nous les croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Directement après, il est écrit. Écris ce que tu as vu. Nous remercions Dieu de ce que tout a été écrit. Alléluia! Il nous a été écrit que le Messie viendrait. Nous trouvons tout écrit à l'avance. Comment est-ce qu'il est venu, ce qu'il a fait et ce qui s'est passé. Tout cela était écrit à l'avance, de sa naissance jusqu'à sa montée au ciel. Oui, jusqu'à même l'effusion de Saint-Esprit et même son action dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres. Tout a été écrit. Remercier soit notre Dieu de ce que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures. La mort pensait maintenant, je t'ai eu, toi aussi, ici. Mais il était écrit, mort, je te serai une pestilence, Osée 13, verset 14. Enfer, je te serai une peste. Et je vais vous dire, en enfer, du côté des perdus, ils sont tous tombés malades quand le Seigneur est venu. Et je ne le dis pas pour plaisanter. Mon Seigneur et mon Rédempteur, là-bas aussi, révéler la puissante victoire de Golgotha, pas seulement en parole, mais en action et dans la vérité. Jusqu'à là, bien sûr, que c'était le diable qui avait la direction, qui avait les clés. Mais depuis ce jour, c'est le Seigneur qui a les clés de la mort et de l'enfer. C'est peut-être raison que nous aussi, avec Paul, nous pouvons dire, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Remercie soit Dieu qui nous a donné, accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous ceux qui le croient, dites Amen. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur de tout notre cœur pour sa victoire. Nous chantons dans la crainte et dans l'adoration ce cœur. Tu es digne, et cela de tout notre cœur. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur, louange et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire et honneur, louange et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. En allemand, sa vérité parcourt tous les pays, atteint tous les pays. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Mes bien-aimés, qui peut dès maintenant croire aujourd'hui, et vraiment, de tout son cœur croire, que absolument, et nous avons été délivrés, sauvés et rachetés totalement, entièrement. Qui peut croire que la mort, le diable et l'enfer sont vaincus, ont été vaincus? Alléluia! Gloire soit à notre Dieu. Cela n'est pas une histoire. Cela est l'histoire du salut sur terre. Une réalité divine avec son peuple. La réalisation des promesses de Dieu. Et nous pouvons avoir part à cela. Et si le monde pense de nous ce qu'il veut penser, nous savons en qui nous croyons. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Nous voulons maintenant, dans une prière commune, remercier le Seigneur. Nous chantons entre temps, crois seulement. Mais aujourd'hui, nous, pas seulement un seul prix, mais nous voulons aujourd'hui tous prier ensemble. Comme d'une seule voix, de cœur reconnaissant. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois-le seulement. Parce que Jésus est là. Amen. Jésus est ici. Amen. Dit Frère Franck. Tout est possible. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Parce que Jésus est là. De tout notre cœur ensemble, nous te remercions, Seigneur, de ce que les versets bibliques que nous avons observés sont devenus une vérité accomplie, réalisée. Elles ont trouvé leur confirmation et elles ont été accomplies. Nous pouvons nous confier entièrement à toi et à ta parole éternellement. Et te faire confiance à toi et ta confiance. Bien-aimé Seigneur, ô notre Dieu, cette réunion de ce soir me signifie beaucoup de choses. Seigneur Dieu, c'est ma prière que la parole, oui, la parole de l'Écriture que nous avons lue aujourd'hui soit ancrée profondément, tombe profondément dans nos cœurs et soit crue pour que toute la crainte et toute l'hésitation et l'incrédulité puissent être prises de nous et que nous puissions te faire confiance et te croire pour que ta gloire puisse être manifestée. Nous te remercions pour cela, de ce que de tous les peuples, langues et nations, tu appelles. Le nombre sera plein et entrera dans la gloire. Nous te remercions de tout notre cœur pour Golgotha. Nous te remercions de ce que tu es allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, et que tu as vaincu Satan, la mort. Alléluia! Gloire et honneur te soient apportés éternellement. Alléluia! Amen!